Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, moins de femmes au travail, encore moins de femmes dans la vie politique publique, telle est la situation générale au Maghreb et au Moyen-Orient. L'Union pour la Méditerranée, structure de coopération Nord-Sud, lance plusieurs initiatives en soutenant des projets en faveur des femmes. La secrétaire générale adjointe de l'Organisation pour les Affaires Sociales est néanmoins optimiste car les jeunes femmes de la région sont de mieux en mieux éduquées. Lutter contre la discrimination des femmes en Iran, c'était le projet de la chanteuse et pianiste Sarah Najafi, qui a réussi à organiser un concert de femmes solistes à Téhéran. Cela donne un film documentaire, No Land's Song, qui sort cette semaine en France. À suivre également la revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Le Moyen-Orient et le Maghreb sont très en retard concernant la participation des femmes à la vie publique. Elles ne sont que 16% à participer à la vie politique, contre un tiers environ en Europe. Et côté travail, ce n'est guère mieux. Seulement un quart des femmes occupent un emploi, contre la moitié en Europe et dans le reste du monde. Pourtant, les économistes estiment que le PIB dans la région, autrement dit la richesse créée, pourrait augmenter de 25% si l'écart entre les sexes se réduisait. Pour en parler, nous sommes en ligne depuis Barcelone avec la secrétaire générale adjointe de l'Union pour la Méditerranée, chargée des affaires sociales. Bonjour Delphine Borion.
Bonjour Éric Bataillon.
Pourquoi les femmes participent-elles si peu à la vie publique ?
C'est un sujet sur lequel l'Union pour la Méditerranée a vraiment mis l'accent parce que c'est la question de l'égalité des genres et du renforcement du rôle des femmes est vraiment un facteur de modernisation, de transformation et de développement pour l'ensemble de la région. Alors, vous me parliez de la vie publique et politique. En effet, ce taux est très faible. Alors, il faut néanmoins voir une évolution positive, puisque la participation des femmes dans la vie publique dans cette région Afrique du Nord, Moyen-Orient, était de 3,8% en 2000 et aujourd'hui à peu près 13%. Donc on voit quand même un progrès. Je crois que ce progrès, il est lié d'abord à des progrès qui ont aussi eu lieu dans le domaine de l'éducation et qui fait que les filles dans cette région du monde et comme je crois un peu partout dans le monde a eu beaucoup de progrès. On voit aujourd'hui dans les universités quelquefois même plus de jeunes filles que de jeunes hommes dans les universités de la région. Donc ce progrès de l'éducation s'est aussi retranscrit. Et puis bien sûr, il y a eu cette progression dans les taux de vote et sur aussi l'encouragement, la mise en œuvre effective de la participation au vote qui fait qu'il y a une participation croissante. La difficulté, c'est l'accès aux postes électoraux qui reste donc faible, avec néanmoins des disparités, puisque par exemple l'Algérie a 30% de femmes parlementaires, ce qui est un taux qui est quelquefois supérieur à des taux que nous avons dans des pays européens.
Est-ce que les printemps arabes ont bénéficié aux femmes, et notamment dans la participation politique ?
Alors, on a vu, notamment en Tunisie, un rôle majeur des femmes dans toutes les transformations qui se sont tenues. Ce sont elles qui, de ce que disent même des hommes politiques tunisiens, ont sauvé la démocratie en Tunisie par les manifestations qu'elles ont faites, par le fait qu'elles ont vraiment manifesté avec beaucoup de courage pour la démocratie. Et je crois que ça a été aussi un exemple pour tous. Il faut aussi parler du rôle d'Internet et aussi des réseaux sociaux qui ont accru l'engagement politique de la part des femmes. Et je suis convaincue que on va connaître dans toute la région une croissance de cette participation politique. Et bien sûr, bon, il reste les préjugés, il reste la réticence des partis politiques à mettre des femmes dans leur liste et les mettre en position éligible. Il reste certaines restrictions aussi bien sûr culturelles qui font que la femme s'occupe de la sphère privée, reste à la maison et prend moins de place dans la vie politique et publique. Mais on voit qu'il y a quand même une progression.
Et un poids peut-être religieux, la religion pèse dans la non-participation des femmes à la vie publique ?
Je pense que ces perceptions ont très peu à voir avec l'islam ou d'autres croyances religieuses. Par contre, bien sûr, il peut y avoir certaines interprétations de l'islam comme dans d'autres religions qui fait que cela encourage moins les femmes et que le rôle de la femme est en effet cantonné dans un rôle privé, domestique, dans la maison.
Alors, quelles sont les actions que l'Union pour la Méditerranée met en place pour aider au renforcement de la place des femmes dans la société ?
Alors, je dirais que nous agissons à trois niveaux. à un niveau politique d'abord. Et il y a eu déjà 3 réunions ministérielles dans ce cadre avec, à partir de Istanbul en 2006, une conférence ministérielle à Marrakech en 2009, à Paris en 2013. Et nous mettons donc en œuvre ces recommandations très fortes qui ont été prises par l'ensemble des ministres de l'Union pour la Méditerranée concernant à la fois les questions de égale participation des femmes dans les sphères politiques, mais aussi économiques, sociales, civiles, également la question de la lutte contre la violence et toutes les discriminations, et enfin la question de changement des stéréotypes par l'éducation et les médias. Et au niveau du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, nous avons lancé un dialogue régional pour associer tous les gouvernements et également les acteurs principaux engagés dans cette question de l'égalité homme-femme pour justement assurer un suivi de la mise en œuvre des engagements qui avaient été pris à Paris et préparer la prochaine ministérielle qui devrait avoir lieu dans un an à peu près, en fin 2016, début 2017. Le deuxième niveau, c'est au niveau de projets concrets. Et alors c'est là vraiment un fort engagement de l'UPM d'accompagner et de labelliser des projets. Nous avons en tout 41 projets labellisés par l'UPM et il y en a 7 qui sont exclusivement dédiés à la question du droit des femmes ou 14 projets qui touchent principalement la question des femmes, que ce soit par exemple la promotion du leadership féminin, la prise de décision, la question de l'entrepreneuriat féminin, la question de la formation professionnelle et l'accompagnement vers l'emploi des jeunes femmes et en particulier des jeunes femmes venant de milieux défavorisés, ou des questions d'éducation, de lutte contre la violence.
Et le troisième niveau ?
Et le troisième niveau, c'est de jouer un rôle de plateforme, de mise en relation de l'ensemble des acteurs, donc que ce soit d'un point de vue géographique, donc travailler sur le niveau régional, que le niveau multi-acteurs, pour que les bonnes pratiques s'échangent, pour que les réseaux se fassent et que justement les acteurs engagés puissent trouver un soutien et un appui de la part d'autres. Et donc cette mise en commun, cette création de cet agenda commun qui fait le lien justement entre ce niveau politique et ce niveau opérationnel dans un cercle vertueux qui se nourrit respectivement.
Delphine Borion, avez-vous un exemple, une histoire à nous raconter de projet que vous soutenez ?
Alors, je peux vous parler du projet AFAEME, qui est promu par l'Association des femmes entrepreneurs de la Méditerranée et qui vise à accroître la sensibilisation des jeunes filles à l'université vers la création d'emplois et la création d'entreprises. Nous avons organisé pour 2000 jeunes filles de 7 pays de la Méditerranée des journées de l'entrepreneuriat dans différentes universités. Et ensuite, ces jeunes filles sont accompagnées par les associations de femmes entrepreneurs des pays respectifs pour justement dans leur projet de faire leur business plan et de créer une entreprise. Et nous avons une jeune fille, Soukaina Elbor, qui a participé à ces journées de formation au Maroc, qui ensuite a remporté le stage qui lui était offert dans le cadre de la Banque européenne d'investissement et qui, juste après son stage, a créé sa propre entreprise et qui est un beau projet parce que ça consistait à créer une école dans une région éloignée des montagnes du Maroc pour des jeunes filles défavorisées. Donc on a en 3 ans, en fait, la boucle d'une jeune fille qui a bénéficié d'un projet et qui elle-même se retrouve à créer un projet qui va bénéficier à d'autres jeunes filles dans le domaine éducatif.
Merci Delphine Borion. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale adjointe de l'Union pour la Méditerranée, chargée des affaires sociales. Nous étions en ligne avec vous depuis Barcelone.
Je vous remercie beaucoup.
Orion Hebdo sur RFI.
En Iran, depuis la révolution islamique de 1979, les femmes n'ont pas le droit de chanter en public en tant que solistes. Pourtant, une jeune compositrice iranienne, Sarah Najafi, avec l'aide de 3 artistes venus de France et de Tunisie, a réussi à braver la censure et les tabous pour organiser un concert de chanteuses solo en plein Téhéran. C'est ce qu'elle a confié à notre consoeur de la rédaction persane de RFI, Shala Naïd, lors de la présentation du film documentaire qui raconte cette aventure.
Ce concert devait se faire. En tant que compositrice, j'avais envie que ce tabou, le tabou du chant de la femme en Iran, soit brisé. J'ai beaucoup cherché à savoir pourquoi. J'ai même sollicité l'avis d'un religieux à ce sujet. J'ai voulu savoir s'il y avait des indications dans ce sens, dans le Coran, et je n'ai trouvé rien de convaincant. Quand j'ai commencé, j'ai vite compris que si l'on ne devait prendre que des chanteuses iraniennes, nous ne pourrions jamais réussir. Je me disais que si j'invitais des chanteuses non iraniennes, on pourrait peut-être, par ce subterfuge, organiser ce concert. J'ai alors choisi la France, car il y a une vieille affinité entre nos deux cultures. Je voulais aussi rétablir le pont culturel d'antan. Bien entendu, c'était très difficile. Après 3 années d'efforts, le projet a pu voir le jour, mais malheureusement, uniquement pour un soir.
Sarah Najafi s'est beaucoup inspirée de l'expérience d'une autre chanteuse, Hama, très célèbre dans l'entre-deux-guerres.
La chose la plus importante que j'ai apprise de cette expérience et de ce film, c'était que Hama a pu, en son temps, briser les tabous. Elle a assumé beaucoup de difficultés. Elle a été menacée de mort, mais elle n'a pas cédé et s'est produite sur scène sans voile. Alors qu'aujourd'hui, nous ne pouvons toujours pas le faire. C'est-à-dire, comme vous le voyez, même avec autant de volonté, il n'y a pas cette force pour briser ce tabou. Et c'est pour moi une grande source d'interrogation.
Nolan's Song, un film de Hayat Najafi, qui sort en salle en France mercredi prochain, 16 mars.
Pour nous écrire... orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bulchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, l'assaut manqué de l'État islamique contre la ville de Ben Gardan en Tunisie est encore à la une de nombreux journaux arabes.
Oui, tout à fait. Par exemple, il y a ce titre d'Ashaq al-Awsat, « La victoire de Ben Gardan est un rayon de lumière tunisien dans l'obscurité de Daesh ». Et puis, le journal appelle le monde arabe à soutenir la Tunisie contre le groupe État islamique. Alors, de nombreux journaux saluent la résistance de la démocratie tunisienne aux extrémistes et souligne que la population s'est rangée du côté des forces de sécurité contre les djihadistes qui espéraient l'inverse. Mais le concert de louanges n'est pas unanime et il y a par exemple Al-Quds Al-Arabi qui estime qu'il y a de nombreuses contradictions dans le récit officiel et que les pertes parmi la population et les forces de sécurité auraient pu être minimisées si les autorités étaient intervenues avant l'attaque dont elles disent avoir eu vent.
Alors on sait que les combattants venaient de Libye et justement Alexandre, selon le journal Al-Ayat, la branche libyenne de l'État islamique menacerait de conquérir Rome.
Oui, le journal cite un communiqué qui émanerait de l'émir du groupe État islamique de Libye et qui affirme que Daesh partira à la conquête de Rome pour se venger des opérations militaires européennes contre l'organisation. Abdelkader al-Najdi affirme avoir été nommé émir de la province de Libye par Abu Bakr al-Baghdadi, calife de l'État islamique. Il a appelé aussi les migrants d'Afrique et du Proche-Orient à venir en Libye pour s'enrôler dans les légions qui partiront à la conquête de Rome.
À la une de la presse israélienne, Michel Paul, toujours la vague de violence et de nouvelles mesures adoptées par Israël.
Et pour Marive, c'est le début de la mise en œuvre d'une ligne nettement plus musclée, une nouvelle politique d'expulsion. La famille de l'auteur d'une attaque à l'arme automatique a été bannie de sa résidence dans la partie orientale de Jérusalem et devra désormais vivre en Cisjordanie. C'est une des décisions adoptées par le cabinet de sécurité israélien cette semaine et qui a donc été immédiatement mise à exécution. Le journal souligne qu'il a également été décidé de colmater toutes les brèches du mur de séparation. Et aussi, la presse affirme qu'une gigantesque opération a été lancée par les forces de sécurité israéliennes pour interpeller les Palestiniens de Cisjordanie qui se trouvent en situation irrégulière en Israël. Plusieurs centaines d'entre eux ont déjà été arrêtés. Et puis, Eric, à retenir ce sondage publié en milieu de semaine par Haaretz et qui a fait beaucoup de bruit, près de la moitié des Juifs israéliens seraient en faveur d'un transfert des Arabes d'Israël, un pourcentage qui monte en flèche pour dépasser les 70% si les personnes interrogées affirment être de droite ou pratiquant la religion.
Et toujours dans Haaretz, la colonisation rampante se poursuivrait.
Le quotidien libéral titre à la une de son édition du week-end sur ce qu'il nomme la judéisation accélérée par la droite avec l'aide du gouvernement du quartier de Silouane ou Siloué à Jérusalem-Est. Le journal montre sur une photo les différents immeubles et maisons visés par ces groupes. En tout, 51 familles palestiniennes seraient l'objet d'ordres d'expulsion après que leurs demeures ont été rachetées par l'intermédiaire de sociétés de paille. Et plusieurs immeubles sont déjà occupés par des familles juives. Et toujours selon Haaretz, le coût de la protection d'une famille juive dans ce quartier s'élève à quelques 200 000 euros par an payés par les contribuables israéliens.
Alexandre, plusieurs journaux arabes accordent une large place à ce qu'ils qualifient de contestation chiite du Hezbollah au Liban.
Oui, selon ces journaux qui sont souvent proches de l'Arabie Saoudite et du Qatar, de nombreux chiites indépendants, c'est entre guillemets, libanais, contestent l'aventurisme du Hezbollah et sa participation à des combats à l'extérieur qui servent les ennemis de la nation arabe. L'importance qui est accordée à cette contestation par ces journaux relève en fait de la campagne médiatique arabe qui a été lancée contre le Hezbollah, décrétée organisation terroriste par la Ligue arabe. D'ailleurs, certains éditorialistes critiquent à cet égard la position de la Tunisie qui a refusé de s'associer à la condamnation du Hezbollah.
Enfin, Alexandre, selon le journal Al-Sharq Al-Awsat, la Syrie se viderait de ses médecins.
Oui, selon le journal, 7000 médecins sur les 33000 enregistrés en Syrie ont quitté le territoire. Le journal qui cite le président du syndicat des médecins indique toutefois que ce dernier affirme qu'il n'y a pas de manque enregistré dans le pays, mais le journal souligne aussi que près de la moitié des hôpitaux et dispensaires de Syrie ont été affectés ou détruits par les combats, que ce soit dans les zones contrôlées par l'opposition ou dans celles tenu par le régime de Bachar el-Assad.
Un sujet que nous avons abordé dans Orient Hebdo il y a quelques semaines. Michel Paul, la tension toujours entre Israël et les États-Unis.
On sait que les relations entre le président américain Obama et le premier ministre israélien Netanyahou sont quelque peu tendues. La presse ici se fait l'écho d'une interview accordée par le chef de la Maison-Blanche à la revue américaine Atlantique. Barack Obama y accuse entre autres Bibi de s'être montré condescendant à son égard. Et aussi cette petite phrase du président qui figure en manchette dans Yediot Aharonot. Netanyahou est apeuré et paralysé du point de vue politique. Et la conclusion du quotidien Israël Hayom, Obama a été découragé par le Proche-Orient.
Quant au quotidien Yediot Aharonot, il se livre à un petit jeu.
Oui, le journal inverse les rôles. Que se passerait-il si en mars 2016, autrement dit maintenant, Netanyahou était chef de l'opposition et le travailliste Yitzhak Herzog premier ministre? Eh bien, selon ce scénario, les résultats seraient pratiquement les mêmes. La vague de violence battrait son plein. Seuls les slogans seraient inversés. Bibi au pouvoir et Bougie, c'est le surnom de Herzog. Bougie donc, go home.
Allez, pour conclure Michel, votre photo du jour?
Eh bien, c'est la photo reprise par tous les journaux de l'ancien Premier ministre et chef d'état-major israélien Ehud Barak. Le nouveau look de Barak, désormais barbu.
Oui, Ehud Barak qui participait cette semaine au 4e sommet de la sécurité mondiale à Bakou, en Azerbaïdjan. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Pour écouter Orient Hebdo, deux adresses, www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que notre page Facebook. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Bonne semaine et à samedi prochain. Géopolitique.